Pour ouvrir nos Bibles au premier passage, dans 1 Pierre au chapitre 3, les versets 10 à 12. Tantôt, on va continuer le message qui est au niveau des empêchements aux exaucements de prière. Au début, on a vu plein de promesses que le Seigneur nous garantissait que si on demandait quelque chose, il nous l'accorderait. Mais à quelque part, dans la parole, on peut voir qu'il y a des petites clauses où ce que nos vies soient conformes à ce qu'il nous a dit afin d'obtenir nos requêtes. Il y a deux semaines, on a vu qu'il fallait demander toutes nos prières au Père, le Père que Jésus a révélé, puis il fallait les demander dans le nom de Jésus. C'était les deux premières clauses qu'on avait eues. La semaine passée, on a vu qu'il fallait pas prier en répétant des paroles vaines, mais plutôt qu'il fallait avoir notre cœur, notre pensée sur ce qu'on demandait, puis les demander avec foi, puis pas faire des répétitions de mots, ça sert à rien. Il s'agit de demander des choses qui sont selon notre cœur, mais que vraiment qu'on le demande avec foi. Puis aussi, il fallait pas prier dans le but d'être entendu des autres, dans le but d'être écouté des hommes, mais plutôt d'être écouté de Dieu. Ce soir, on va voir un autre point sur au niveau qu'il faut rendre notre vie conforme à sa volonté. Sinon, ça peut nous empêcher de recevoir des requêtes, de recevoir des exaucements de prière. Le premier passage qu'on va aller lire dans 1 Pierre, chapitre 3, le message va être basé sur ce passage-là, au chapitre 10 à 12. « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Dans ce passage, ça nous montre l'importance qu'il faut marcher d'une manière juste devant Dieu afin de présenter des prières efficaces. Des prières efficaces, c'est des prières qu'il reçoit. Dans ces passages-là, au verset 12, ça nous dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. » Au verset 12, ça nous dit « Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » C'est absolument vrai, comme j'ai dit, que quand on accepte Jésus, on reçoit la justice de Jésus sur nous. Puis, quand le Père nous regarde, il voit Jésus, il voit la justice de Jésus sur nous. Mais à quelque part, dans ce verset-là, quand il dit « Les yeux du Seigneur sont sur les justes », puis que la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, ça parle pas de la justice du Seigneur qui est sur nous, mais bien de notre propre justice. Non pas qu'on cherche à être juste devant Dieu, mais nos œuvres démontrent aussi qu'on a la foi. Nos œuvres aussi peuvent démontrer à Dieu qu'on veut marcher d'une manière qui lui est agréable. C'est ça qu'on va éplucher ce soir. C'est vrai que quand Dieu nous regarde, il voit la justice de Jésus. Parce que sans la justice de Jésus, on peut pas présenter des requêtes qui peuvent être obtenues. Mais dans ces versets-là, ça nous parle de la justice personnelle de l'homme, des choses qu'il doit avoir dans sa vie afin d'être exaucé. Par notre conduite, on peut favoriser notre intimité avec Dieu. Bien que Jésus a dit qu'il était avec nous à tous les jours, quand il dit « Je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde », il est aussi à tous les jours à côté de chaque être humain sur cette terre. Mais il y a une communion plus profonde qui se développe avec ses enfants. Parce que Dieu est omniprésent, il n'est pas juste autour des chrétiens, Dieu est autour de l'humanité entière, tout est créé en lui, nous sommes en lui présentement, il est là. Si je viens ici, il est ici, si je m'en vais dehors, il est là. Fait que Dieu est autant à côté de la personne qu'il ne connaît pas, puis il est à côté de nous en même temps. Mais il a choisi de se révéler davantage à chacun de nous, puis nous donner une intimité plus profonde. Puis même en chacun de ses enfants, Dieu y entretient des intimités différentes selon leur appel. Si on prend par exemple avec Moïse, dans Nombre 12, le verset 6 à 8, ça nous dit, « Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Puis, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche, puis je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Puis aussi, Jésus, un autre passage, il dit dans Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, puis il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce que lui est agréable. Voyez-vous, à quelque part, malgré que le fait que Dieu y est partout, avec chaque personne sur la terre en même temps, mais il a promis à ses disciples d'être avec eux à tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais même envers ses disciples, il peut y avoir certaines personnes où ce que Dieu se révèle plus qu'à une autre. Avec certaines personnes, Dieu peut avoir une intimité un peu plus profonde que d'autres. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu d'avoir une intimité avec chacun de ses enfants? Oui. Dieu a promis cette relation personnelle avec chacun de ses enfants. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 16, jusqu'au à peu près 4-5 versets, il dit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Cette relation d'intimité, puis de marcher avec lui, ça dépend premièrement du plan du salut qu'on a en Jésus. Parce que si on veut commencer à vivre en relation personnelle avec Jésus, il fallait d'abord passer par la nouvelle naissance. Quand une personne naît de nouveau, elle reçoit le Saint-Esprit, Dieu lui-même vient habiter dans cette personne, puis il y a une relation personnelle qui commence à se développer. Mais dans ces passages-là, ça nous démontre que ça dépend aussi de notre conduite envers Dieu. Parce que le verset 17, ça nous dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, puis je vous accueillerai. » Puis au verset, un peu plus loin, au verset 7, chapitre 7, le verset 1, puis il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Une fois qu'on a passé par la nouvelle naissance, on marche avec Dieu, mais par la suite, le Seigneur veut changer nos vies, il veut qu'on se purifie, il veut qu'on s'éloigne de certaines choses, afin de développer une relation de plus en plus intime avec nous. Dieu veut, puis il peut nous amener à ce qu'on marche dans une relation qu'on marche dans une manière qui lui soit agréable. Il y a un passage qu'on va regarder dans Hébreux, chapitre 13, le verset 20 et 21. Puis le point qu'il faut regarder, c'est que Dieu, il peut le faire qu'on marche d'une manière qui lui soit agréable, mais il veut le faire. Puis il veut qu'on marche d'une manière qui lui soit agréable afin qu'on approfondisse notre relation avec lui. Le passage nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, il vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Il est en train de comme dire que Dieu vous rende capable de faire des bonnes œuvres puis qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Ça veut dire que Dieu, à quelque part, veut commencer à faire une œuvre de changement et de transformation pour qu'on arrive à vivre une vie qui lui soit agréable. Mais là, un peu plus loin, on va développer sur qu'est-ce que ça a rapport avec nos prières. Mais pour le moment, le Seigneur veut prendre conscience qu'il veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Il veut qu'on marche comme qu'on soit intime avec lui. Mais il veut qu'on prenne garde à ce qu'on marche d'une manière qui lui soit agréable. Il veut nous montrer qu'il y a des choses qu'il faut abandonner dans nos vies, qu'il y a des choses qu'il faut se débarrasser, qu'il y a des choses qu'il faut tendre afin d'améliorer notre relation avec lui. Dieu veut développer une relation comme il est Dieu puis que nous autres, on est son peuple. La même chose avec le peuple juif. Parmi toutes les nations de la terre, Dieu s'est choisi un seul peuple qui lui appartenait. Dieu était le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il avait choisi le peuple juif pour être, que le peuple le juif était son peuple, puis lui était leur Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Dieu veut commencer à développer cette relation-là. Premièrement, qu'il est notre Dieu, puis qu'on fait partie de son peuple. Si on voit ce passage-là, comme dans le passage qu'on a vu dans 2 Corinthiens, il dit, je serai Il dit, j'habiterai au milieu d'eux et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Puis Dieu veut développer aussi une relation encore plus profonde au niveau d'être comme notre Père, puis nous autres, on est son Fils. Il dit, je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles. Moi, je pense qu'à quelque part, quand on vient au Seigneur, la majorité du temps, on l'accepte pour être notre Seigneur, comme s'il serait notre Dieu, qu'on fait partie de son peuple. Mais au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, on commence à découvrir que Dieu se révèle comme étant notre Père, puis qu'on est son Fils, puis qu'il y a une relation encore plus étroite qui se développe avec lui. Puis ça serait supposé d'être comme ça. Si vous le voyez encore seulement que c'est Dieu, mais je prie le Père, puis Paul y prie aussi, que nos yeux se rouvrent, que notre connaissance s'agrandisse pour saisir la portée que Dieu n'est pas juste notre Dieu, il veut devenir notre Père, puis nous autres, on est son fils ou sa fille. Il y a une relation de paternité qui se développe. Puis c'est ce qu'il veut, Dieu, marcher avec chacun de nous à chaque jour. Jésus a dit que son Père ne l'abandonnait jamais. Il était toujours avec lui. Puis que toutes ses prières, même, il a confessé, toutes ses prières étaient exaucées, étaient entendues. Puis Dieu veut faire la même chose avec tous les passages qu'on a vus sur la prière et son désir de vouloir nous exaucer. Il se révèle comme quoi qu'il veut répondre à nos prières, il veut prendre soin de nos besoins, il veut marcher avec nous dans une profonde intimité. C'est à nous autres qu'il faut réaliser comment faire pour favoriser cette communion-là que je peux développer avec Dieu. C'est un peu semblable au principe qu'un couple marié, tu peux arriver à vivre ta vie avec ta femme ou avec ton mari d'une manière assez distante, puis que les gens ont de la misère à se communiquer, à se parler, puis ont de la misère à travailler ensemble, puis à être dans l'unité. Ça ne produit pas grand-chose de bon dans un foyer comme ça, mais par contre, si le couple se parle, se communique, s'échange les choses, puis ils s'entraident, il y a comme une unité qui se forme, puis il y a plus de force dans ce couple-là. Mais notre relation avec Dieu, ça doit être comme ça. On doit rechercher ce qui plaît à Dieu, ce qui lui est agréable. Dieu est déjà parfait en partant, c'est nous autres qu'il faut fitter dans son cadre à lui. Lui, il n'a pas besoin de changer rien. On ne peut pas le trouver mieux qu'il est. Il ne peut pas être plus aimable qu'il est. Il ne peut pas être plus bon qu'il est. Puis il veut nous accorder toutes choses. C'est à nous autres qu'il faut apprendre à développer cette relation-là et à tasser ce qui pourrait lui nuire. Voici comment qu'on peut modifier notre conduite pour favoriser notre contact avec lui. Le premier passage que je vous ai lu dans 1 Pierre, je ne sais pas si vous l'avez gardé, il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Le point que je veux en venir, là, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre vie qui pourrait favoriser notre contact avec le Seigneur? Il en parle au verset 10, au verset 11. Verset 10, ça nous dit qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Au verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Tout ça pour rejoindre un autre passage dans Éphésiens 4, le verset 29. Ça nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. » Le point qui en est, quand un chrétien manifeste des paroles méchantes, des paroles qui blessent, puis de l'amertume, de l'animosité, de la colère, des clameurs, ça c'est des cris quand il se met à crier dans la maison, puis des calomnies, puis des méchancetés, là, on attriste le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier que quand on a donné notre vie au Seigneur, l'Esprit de Dieu est entré en nous. Puis Jésus a dit, « Je fais ma demeure chez vous. » Puis je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chaque fois qu'on se met en colère, chaque fois qu'on dit des paroles méchantes, qu'on dit des paroles trompeuses, ça c'est des mensonges, qu'on dit toutes sortes de choses qui n'est pas conforme à la sainteté ou à la justice ou à l'amour ou à tout ce qu'on peut voir dans la parole, on attriste le Saint-Esprit. On dit qu'on veut développer une relation d'intimité, puis deux secondes après, on parle des paroles blessantes à quelqu'un, puis on se rend même pas compte que Dieu était là, puis il a tout entendu, puis qu'on a même attristé le Saint-Esprit. Je voudrais que Dieu écoute mes prières, je voudrais que Dieu soit en contact avec moi d'une manière intime, puis mes paroles font que je l'attriste. C'est pas la marche qu'il faut pour améliorer notre relation avec le Seigneur. Un autre passage dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme puis le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mais voyez-vous encore, ça nous dit, il faut être dans un état de prière puis de rendre des actions de grâce à Dieu. Mais il faut prendre garde de ne pas éteindre l'Esprit. L'Esprit veut agir à travers de nous. Il veut passer par les dons spirituels, il veut passer par des paroles d'encouragement, mais on peut éteindre son action. Puis là, il dit de s'abstenir de toute espèce de mal. Pourquoi? Parce que quand on vit dans le mal, on peut éteindre son action dans nos vies. On peut l'attrister, on peut l'éteindre. C'est rien pour améliorer une relation d'intimité. Pour avoir une vie qui lui est agréable, nous pouvons puis nous devons rechercher à être en paix puis de rechercher d'être rempli de la présence de l'Esprit. Le verset 11 du premier passage que j'ai lu, ça dit qu'il recherche la paix et la poursuive. Si on veut être exaucé du Seigneur, si on veut que ses oreilles soient attentives à nos prières, il faut rechercher la paix et la poursuivre. Cette paix-là, là, c'est avec Dieu et avec les hommes. Parce que quand on marche avec Dieu, on s'est tourné vers le Seigneur, on a demandé pardon pour nos péchés, la paix est venue. Après ça, quand on marche avec notre prochain, est-ce qu'on recherche la paix? Si je ne recherche pas la paix, j'attriste le Saint-Esprit, puis je peux même éteindre l'action de l'Esprit. Mais si je commence à marcher, à rechercher la paix et la poursuivre, une fois qu'on l'a atteint, c'est de poursuivre dans un désir continuel à toujours être en contact avec lui et en harmonie avec mon prochain. Je vais favoriser une bonne relation avec le Seigneur. Dans le passage que ça nous dit dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Puis ça, quand il nous dit d'être rempli de l'Esprit, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Si on dit qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est qu'on est rempli de Dieu lui-même. Puis ça nous dit pas que ça dépend de Dieu pour être rempli. Ça nous dit à nous autres un ordre de rechercher d'en être rempli. Puis quand dans le passage, ça nous dit, il faut rechercher la paix, mais je dois rechercher la paix avec Dieu afin d'être rempli. Je dois rechercher la paix avec mon prochain afin d'être rempli. Je dois m'entretenir, comme qui dit dans la parole, de paroles de louange, des paroles d'adoration, des actions de grâce. Puis la Bible, elle nous dit que si on s'entretient par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, vous allez être rempli de l'Esprit. Ça dépend de nous. Ça dépend pas de Dieu. Dieu est déjà prêt à venir habiter dans notre cœur et à faire de nous ses fils et ses filles. Il est déjà rentré. Mais à tout bout de champ, on est en train de l'attrister. À tout bout de champ, on est en train de l'éteindre. C'est rien pour favoriser que ses yeux soient sur nous. Une vie vécue toujours remplie de l'Esprit, c'est d'être toujours en contact avec Dieu. C'est une personne qui est proche de Dieu puis qui obtient tout de Dieu dans ses prières. Rechercher à vivre d'une manière qui lui soit agréable n'est pas juste pour se vanter pour notre propre justice, là, mais c'est pour favoriser le regard de Dieu sur nos vies. Si je recherche à vivre d'une manière qui lui est agréable, c'est pour favoriser qu'il me regarde, qu'il me suit dans ma marche, qu'il est content de moi, qui est fier, qu'il voit que, il dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes, puis ses oreilles sont attentives à ses prières. Si je marche d'une manière qui lui est agréable, ses yeux sont sur moi et ses oreilles aussi sont sur moi. Vivre d'une manière qui est agréable à Dieu n'est pas une vie sans manquement, mais c'est une vie qui est en règle avec lui. Parce que ça peut arriver, on n'est pas parfait, ça peut arriver qu'on tombe d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver qu'on fait des choses qui déplaisent au Seigneur. Mais il y a un passage qu'il faut s'accrocher dans ce temps-là, dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » S'il nous dit ça, c'est parce qu'il veut qu'on croit que quand on tombe, si on lui demande pardon, c'est complètement pardonné et purifié au moment où on lui a demandé pardon, pas un an après. T'es déjà pardonné et Dieu ne considère même plus la faute que tu viens de faire. C'est oublié. À partir de ce moment-là, son esprit agit pleinement en toi. Il va agir, puis il va trembler, puis il va se manifester, puis il ne sera pas attristé, il va être dans la joie, puis il va te conduire dans la joie. Vivre d'une manière qui lui soit agréable, c'est pas le fait que tu tomberas jamais, c'est le fait que tu as toujours ta vie en règle avec lui. Si tu tombes, tu te relèves, puis tu demandes pardon, c'est passé, puis tu continues, tu marches encore en communion avec. Quel est le résultat d'une vie qui est en contact avec Dieu? Mais au verset 10 de notre premier verset, ça nous dit, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux. » Quand on marche d'une manière qui est agréable à Dieu, la Bible elle nous dit qu'on va être heureux dans notre activité. La Bible elle nous dit qu'on va aimer la vie, qu'on va voir des jours heureux. On va être content parce que Dieu est toujours avec nous. C'est lui qui est notre joie, c'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre soutien, c'est lui qui nous donne sa paix, c'est lui qui nous donne son amour, c'est lui qui nous donne sa joie, c'est lui qui nous donne toutes choses. Fait que si je mets ma vie en règle avec lui, je lui demande pardon, je vais être heureux tout le temps, je vais être dans la victoire tout le temps, je vais avoir des jours heureux dans ma vie. Puis le verset 12, ça nous dit, « Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Si ma vie est en règle avec le Seigneur, ses yeux sont toujours sur moi, ou sur vous, chacun de vous. Mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Suite en partant, mettons, si vous sentez que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, avant de présenter votre requête, priez à vous-même et à Dieu, puis demandez pardon au Seigneur de purifier ce que vous avez vécu, puis le Seigneur va vous pardonner, va vous restaurer, puis à partir de ce moment-là, vous êtes encore dans l'état que la grâce de Dieu va agir en vous, ses yeux se retournent vers vous, puis ses oreilles vont être attentives à vos prières. Est-ce qu'on veut être exaucé? Est-ce qu'on veut recevoir de Dieu? C'est sacré. Ceux qui font le mal, ils ne peuvent pas s'attendre à être exaucés. Ceux qui ne croient pas que Dieu pardonne puis qui vivent dans le péché, tu ne peux pas vivre d'une vie qui reçoit de la part de Dieu. Le verset 12 nous dit, « Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Autrement dit, Dieu il est là, il est toujours à côté de nous autres à tous les jours, mais quand on vit tout croche, il ne peut pas regarder ça, lui. On l'attriste, on l'éteint, puis il se détourne les yeux. Puis là, on crie, puis ça marche pas. On demande des choses, puis on les a pas. Premièrement, mettons nos vies en règle avec le Seigneur. Puis ça prend pas une prière de saint jours. Si tu lui demandes pardon, tu confesses tes fautes, c'est déjà pardonné. Puis là, après ça, ses oreilles, ses yeux se retournent vers nous, puis il est attentif à nos requêtes. Une promesse dans 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quoi que ce soit que nous demandions, ça veut dire n'importe quelle requête que vous allez faire ce soir, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. L'apôtre Jean le vivait, ça. C'est lui qui l'écrit. Il est exaucé dans toutes ses requêtes. Puis il reconnaissait que quand on vit dans la justice, qu'on fait sa volonté, puis qu'on marche d'une manière qui lui est agréable, toutes nos prières sont exaucées. C'est sûr que quand on a parlé les autres semaines qu'on devait avoir la foi, quand on présente nos requêtes. Puis les disciples, ils l'avaient à la foi. Mais il faut aussi avoir une vie qui lui est agréable. Si on réalise qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu dans notre vie, il faut s'empresser de lui demander pardon, et c'est pardonné. Le Seigneur pose par-dessus ça. Et tout ce qu'on va lui demander, il va nous le donner. Tout ça, on voit ces points-là là, pour exciter notre foi, pour qu'on saisisse sa grâce. C'est un cadeau qu'il nous fait. Il nous doit rien, Dieu. Puis s'il nous exauce, s'il nous a sauvés, c'est une grâce. S'il nous révèle sa parole, c'est une grâce. Puis s'il nous exauce dans nos requêtes, c'est encore une grâce. Mais le pire de tout ça, c'est que Dieu tend ses bras tous les jours. Il est prêt à les répandre, ses grâces. Il est prêt à les donner. C'est nous autres, des fois, que notre faim est très minime ou qu'on ne sait pas comment demander. Ce verset-là que je viens de vous dire, c'est envers le peuple juif qu'il disait. Il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Est-ce que nous sommes un peuple rebelle ou est-ce que nous voulons marcher d'une manière qui est agréable au Seigneur? Si on dit ce soir, là, Seigneur, je mets ma vie en règle avec toi. Je te demande pardon de ma marche qui est tout croche. Puis je te demande pardon de toutes les fois que je me chicane avec ma femme ou avec mon mari. Je te demande pardon quand je suis rebelle sur mon emploi. Je te demande pardon avec des mauvaises paroles que j'ai pu dire à tel frère ou à telle sœur. Je te demande pardon. Là, on dit au Seigneur qu'on demande pardon. Après ça, c'est fini ces affaires-là. Pensez plus que Dieu vous entendra pas. Dieu vous a pardonné. Là, c'est fini cette affaire-là. Là, après, on est dans un état de grâce puis de recevoir quoi que ce soit que nous lui demandions. Il y a tiens, amen là-dessus.